Romains 7. Et dans Romains 7, on a lu l'ensemble des versets tantôt en temps de prière. On va lire, pour commencer, les versets 1 à 6. Et vraiment, ma prière, c'est que Dieu éclaire nos cœurs sur ces vérités extraordinaires, libérantes. On a dit la semaine dernière que Romains 6, c'est la déclaration d'émancipation de la parole de Dieu. Mais on peut dire que Romains 7, mettons, c'est la lutte pour vivre selon cette déclaration. Saviez-vous ça que lorsqu'il y a eu cette déclaration aux États-Unis, certains esclaves ont continué à vivre dans l'esclavage parce qu'ils disaient « ça se peut pas ». Puis bon, il y avait tout un contexte historique aussi. Mais donc, on peut être déclaré libre par le Seigneur, Romains 6. Mais Romains 7, c'est comment vraiment ça se traduit dans nos vies. Donc, c'est vraiment précieux ce qu'on va regarder. Et je vais lire, ensuite je vais prier et je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à ce beau passage de la parole de Dieu. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. On te remercie, Seigneur, ta parole est la vérité. On te remercie de ce que tu es le Dieu personnel qui s'adresse à chacun, spécialement à tes enfants avec ton esprit qui est en eux, mais même à ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Et notre prière, c'est qu'aujourd'hui, tu te révèles tel que tu es dans toute ta splendeur et ta grandeur. Tu te révèles à ceux qui ne te connaissent pas encore, que tu te révèles à nous, tes enfants, Seigneur, pour que on voit les richesses merveilleuses, infinies, même incompréhensibles de Christ. Seigneur, ouvre-nous les yeux, qu'on voit tout l'héritage, tout ce qu'on a en toi, tout ce qui est rattaché à notre si grand salut. Merci, Seigneur, que c'est toi l'enseignant ce matin, c'est toi qui convainc les cœurs, c'est toi qui fais voir, qui illumine les vérités qu'on considère. Et Seigneur, on s'en remet à toi pour que, oui, cette semence, ta parole vivante, porte beaucoup de fruits à ta gloire dans la vie de chacun ici représenté. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste pour situer un peu notre texte dans son contexte, je vous ai donné la feuille en annexe, le handout, là, pas trop comment on appelle ça. Puis là, je vais vous demander quelque chose. Regardez-la pas pendant le message, parce que c'est dur de faire deux affaires en même temps, les filles inclus, ok? D'habitude, les gars ont plus de misère, mais je veux dire, parce que c'est dur d'avoir l'attention à deux places. Je vous la laisse comme ressource que vous pouvez regarder, ça vient d'un commentaire de M. John Phillips. C'est bien parce que ça nous donne un peu l'idée générale d'où est-ce qu'on est parti, où on est rendu. Puis vous pouvez la plier en deux, la mettre dans votre Bible. Je vous demande juste votre attention au complet pour ça. Donc, comme je vous dis, pour la consulter plus tard. Mais ce que je veux souligner, puis bon, c'est un peu en lien avec ce qui est sur la feuille, là, c'est comment les chapitres 6 et 7 de Romains sont la réponse à ce qui est déclaré dans les versets 20 et 21. Rappelez-vous, je vous l'avais dit la semaine passée, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, les chapitres 6 et 7 de Romains, c'est toute l'idée de la réponse biblique, la compréhension biblique. Hein, c'est quoi que ça veut dire la grâce de Dieu qui règne? Romains 6, c'est une mauvaise compréhension en disant, ben si la grâce de Dieu règne, je vais pécher, ça va montrer comment Dieu est bon. Puis, OK? Donc, ça répond à ça, ça dit non, loin de là. On est mort au péché, vivant pour Dieu, mort avec Christ, vivant. Et Romains 7, ben c'est pour que la grâce règne, s'assurer qu'elle règne, je vais m'assurer de tout encadrer ma vie pour vraiment me forcer là, de mon mieux à ne pas déplaire à Dieu. OK? Donc, il y en a un qui est un rejet de la loi des contraintes, l'autre c'est embrasser de tout cœur. Et les deux sont des raisonnements humains qui ne sont pas la bonne réponse. Ceci étant dit, on va apprendre ensemble c'est quoi le règne de la grâce dans notre vie. D'abord, on le voit par... Si vous regardez ici, juste les... là, vous avez le droit de le regarder si vous voulez. Là, mais dans les chapitres 6, 1 à 11, c'est... Dieu nous délivre du domaine de la mort. Tout ce qui est de la mort dans notre vie, on en a été libéré une fois pour toutes. C'est la déclaration d'émancipation. On est libre de la mort lorsqu'on est en Jésus-Christ. On n'a pas essayé de mourir à nous-mêmes. On est déjà mort avec Christ. C'est un fait. On vit à la lumière de tout ça. Essayer de mourir à nous-mêmes, c'est comme essayer de refaire l'œuvre de la croix. Quand Christ est mort, on est mort avec lui. Non seulement il est mort pour nous, mais on est mort avec lui. Dans les versets 12 à 23 du chapitre qu'on a vu la semaine dernière, 6, on voit la délivrance, la domination du péché. Vous vous rappelez comment on a dit qu'il y a beaucoup d'expressions par rapport à la liberté. Libéré du péché, libéré du joug du péché comme une force dominante et assujettissante dans notre vie. Aujourd'hui, on va voir comment on est délivré des demandes de la loi. Parce que la loi, elle est bonne, on l'a lu tantôt. Le problème, ce n'est pas la loi. C'est mal se servir de la loi de Dieu, c'est d'en faire un usage qui n'est pas selon ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et juste encore un petit peu de remarques par rapport à l'ensemble, le contexte. Dans le chapitre 6 au complet, puis jusque au milieu du chapitre 7 environ, on voit beaucoup l'expression, le pronom « nous » utilisé. Okay? Donc, ça réfère à la réalité collective des enfants de Dieu. Okay? Après ça, là, ça parle, on va le voir là, tantôt, mais après ça, ça parle un peu du rôle de la loi pour les non-sauvés. Mais chapitre 6 à 7, verset 6, c'est le « nous », c'est la réalité collective des enfants de Dieu par rapport à ce règne de la loi. Il y a une petite parenthèse, comme je vous ai dit, par rapport au rôle sur les inconvertis, les gens qui ne sont pas sauvés encore. Puis ensuite, on arrive avec énormément de « je ». Je veux faire ci, je ne suis pas capable. Je prends plaisir. Mais, OK, il y a beaucoup de « je ». Pourquoi? Parce que ça réfère, ça nous parle de la lutte personnelle du chrétien avec le péché. Le chrétien bien intentionné, qui aime le Seigneur, puis qui veut donc avoir la victoire sur le péché qui l'enveloppe si facilement. Romains 6, c'est un chrétien qui aime le Seigneur, qui est plein de bonne volonté, mais qui ne prend pas le moyen désigné par Dieu pour avoir la victoire sur le péché. Il se sert de la bonne loi de Dieu, qui n'a pas été donnée pour la victoire sur le péché, il nous a été donnée pour révéler le péché pour qu'il devienne condamnable au plus haut point. Donc, il y a toute cette lutte-là. Et la réalité, c'est que on a besoin de passer par les épreuves, je dirais aussi l'humiliation, d'expérimenter la croix et la vie qu'elle produit. Je vous explique ce que je veux dire par là. Romains 6, je l'ai dit, déclaration d'émancipation, on pourrait dire aussi, c'est l'équivalent de ce que Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. » Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ce que ça nous dit, Romains 6, c'est que nous, on ne peut rien. La réponse, c'est Christ qui vit en nous. Nous, on est mort, et la réponse, c'est la vie de Christ qui est en nous. Ou pour le dire dans les mots de Galates 2:20, ce n'est plus moi, c'est plus je qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis là, dans cette chair, dans ce corps que j'ai, Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est Romains 6. Romains 7, c'est le « je », le « moi » qui refait surface, spécialement dans les versets 15 à 25, puis qui finalement, heureusement, rend les âmes. Misérable que je suis! Il lutte, il essaye! Il prend plaisir à la loi de Dieu sur l'homme intérieur, mais bout, il arrive. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, c'est le jeu qui refait surface, qui rend les âmes pour finalement se donner à Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, c'est la porte d'entrée, c'est la sortie de la lutte de Romains 7, les versets 24 et 25, et l'entrée dans la vie par l'Esprit de Romains 8. Ou pour le dire autrement, Romains 7, c'est le « je », le « moi », qui refuse par orgueil de croire à Romains 6, qui refuse de croire à la simplicité du fait « je suis mort au péché, je suis vivant pour Dieu ». Il dit « ben non, ça peut pas être aussi simple que ça, fait que j'essaie ». C'est le « je » qui dit « ben ça peut pas être aussi simple que juste Christ qui vient en moi, faut bien que je fasse quelque chose ». Je l'entends tellement souvent celle-là. Quoi? Dieu veut qu'on fasse rien? Dieu veut qu'on réponde, il y a beaucoup de choses auxquelles il nous appelle à faire, mais pas nous qui est l'initiateur, puis pas nous qui le fait, mais on le fait par la foi, c'est Christ qui vient en nous, puis on embarque dans ce que lui il fait. Ça demande, oui, notre coopération active, ça demande notre foi, c'est pas de la passivité, mais nous sommes pas les initiateurs comme dans Romains 7. Je fais ci, je fais ça, je veux. Non, c'est Christ qui vient en moi. Et Dieu se sert des épreuves, et je dirais de la crise de Romains 7. Et on ne souhaite jamais du malheur à personne, mais savez-vous quoi? C'est bon de passer par la crise de Romains 7, de voir qu'on n'est pas capable. Qu'effectivement, comme Jésus a dit, c'est pas une hyperbole qu'il a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On ne peut rien faire de spirituel, on ne peut pas plaire à Dieu. La seule façon de plaire à Dieu, c'est par Christ en nous, c'est par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même. C'est la seule façon. C'est par la foi, puis pas la foi en nous, en notre bonne capacité, en nos bonnes intentions, la foi en Christ qui vit en nous.
Amen.
C'est ça, la clé de la victoire. Et savez-vous quoi? J'aime Romains 7 parce que ça finit avec ce cri. Ce cri de quelqu'un qui est dans une condition misérable. Hein? Il dit, misérable que je suis. Et savez-vous quoi? La définition même de la miséricorde, c'est sortir quelqu'un de sa condition misérable. Et c'est exactement ça le point. T'es dans une condition misérable, t'essaies toi-même, t'es un bon chrétien qui veut plaire à Dieu, mais t'enfarges les pieds constamment, puis t'es habitué à la défaite, surpris par la victoire. Grâce soit rendue à Dieu. Pour Jésus-Christ notre Seigneur. Quand Dieu nous amène là, il nous humilie pour susciter la foi et ouvrir la porte à la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est Jésus. Jésus qui vient en moi. Il est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas une formule. C'est pas une patente d'un preacher qui a écrit un livre, qui fait des... C'est Jésus, la vie chrétienne. Il est la vie chrétienne victorieuse. Autrement dit, c'est quand on considère Romains 7, Dieu nous amène, en nous laissant passer par l'expérience des versets 15 à 25, il nous amène à arrêter d'essayer. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai terminé avec cette pensée-là. Arrêtons d'essayer afin d'apprendre à le laisser vivre en nous, à travers nous. C'est plus moi, c'est plus je qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis là, j'apprends à vivre dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Juste un autre élément avant d'y aller avec les points du message. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Christ, notre identité échangée ». Ceux qui lisent un peu sur le sujet, vous allez voir que Hudson Taylor en parlait. C'est une expression utilisée à travers le peuple de Dieu, à travers l'histoire. La vie échangée. Il y a des synonymes à ça. L'idée, c'est que c'est ça. C'est plus moi, c'est Christ qui vient à moi. « The exchange life ». Je pense que c'est Hudson Taylor qui est sorti avec ce terme-là. Parce qu'il avait compris les vérités dont on parle aujourd'hui, puis les expérimentait. Mais d'où ça vient, ça? Bien, dans notre texte, on a vraiment des réponses importantes. Ça nous dit au verset 2 qu'on est dégagé de la loi. OK, avec l'illustration de cette femme avec son mari. Ça dit qu'on est dégagé pour appartenir à un autre, verset 4. Puis pas juste pour appartenir à un autre, pour porter du fruit pour Dieu. On va développer ça, mais l'idée, c'est que, comme tout ce qu'on voit là, Dieu nous déclare des choses qui sont des faits. Et la liberté, c'est de croire à ces faits et vivre à la lumière de ces faits comme étant des faits. C'est pour ça que ça dit, considérez-vous donc, là, voyez-vous là, comme mort au péché et vivant pour Dieu. C'est ça la victoire de la vie chrétienne, c'est croire ces choses comme étant des faits puis agir à la lumière de ça. Ça veut dire, au lieu de m'identifier à mon passé, à mes tendances, à mon péché, ça c'est vivre dans le mensonge. Parce que si je suis un enfant de Dieu, j'ai une nouvelle identité, j'ai un nouveau passé, il est effacé, j'ai une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la vie chrétienne. C'est pour ça que ce message qu'on considère aujourd'hui, c'est au cœur même de la vie chrétienne. Et oui, la crise qui est là, qu'on voit là dans les versets 15 à 23 spécialement, mais pour nous amener à porter du fruit pour sa gloire, comme justement on le voit dans la transition verset 24-25 vers le chapitre 8, pour qu'effectivement la grâce règne dans nos vies. C'est ça le but, que la grâce règne. La grâce, c'est quand Dieu fait le travail. Romains 7, c'est quelqu'un qui est fatigué de travailler, qui n'est plus capable. C'est ça la crise, Seigneur, je ne suis plus capable. Puis Seigneur, c'est dans sa bonté qu'il nous a amené et dit « Ok, parfait, ma grâce te suffit. » Tu n'es plus capable, tu n'es pas supposé être capable. Mais moi, je suis capable. Fais-moi confiance. Je vis en toi. Laisse-moi vivre en toi. Ok? C'est un passage douloureux. Plus ou moins long. Puis les nouveaux qui viennent d'accepter le Seigneur, là, vous devez être enracinés dès le départ. C'est le plus important cours de formation de disciples. Il faut partir sur le bon pied avec Christ qui vit en moi. C'est la chose la plus importante, c'est tellement merveilleux. Et c'est un passage douloureux, plus ou moins long, mais je dirais quand même nécessaire. À cause de ce que nous sommes comme humains, on a besoin d'apprendre dans notre propre peau que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Puis là, on peut commencer à vivre dans Romains 8, comme on va le voir la semaine prochaine. Donc là, on va voir trois aspects. On parle de la loi aujourd'hui, parce que c'est de ça que ça parle, le chapitre 7. Trois aspects de la loi en contraste avec Jésus, notre identité est changée. OK? Dans les versets 1 à 6 qu'on a lu, on voit que la loi, c'est un régime temporaire. Jusqu'à Jésus, notre identité est changée. Regardez le verset 6. « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sur laquelle nous étions avant, retenus, de sorte que nous servons maintenant sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. » Donc, la loi, c'est un régime temporaire qui devait aller jusqu'à Jésus, notre identité est changée. On a été dégagés. Et avant de vous donner plus d'explications, j'aimerais répéter, je pense que je l'ai déjà dit, mais les vérités qu'on considère, Romains 6, 7, 8, sont d'une beauté, d'une simplicité, d'une puissance inouïe, mais c'est un peu paradoxal, sont énormément négligées dans nos églises. On est dans une guerre spirituelle, puis c'est quoi? On voit dans 2 Corinthiens que Satan voile l'évangile aux incrédules pour pas qu'ils voient la splendeur de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ben, il fait ça aussi avec les enfants de Dieu pour pas qu'ils voient toute la vie qui est en Jésus-Christ. On est dans une guerre spirituelle où est-ce que, oui, les non-sauvés ont leur part, où est-ce que Satan veut les voiler de l'évangile, mais aussi pour nous, les enfants de Dieu. Il y a certainement cette guerre-là qui est là aussi. Donc, à cause qu'on est mort avec Jésus-Christ, on a été dégagé de la loi afin de pouvoir servir sous ce nouveau régime. Et Jésus avec la loi, qu'est-ce que ça nous dit? Dans Colossiens 2, 14, ça dit que Jésus, il a effacé l'acte, ça c'est une référence à la loi, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Donc, la loi hein, qui nous dit, t'es coupable, hein, les 10 commandements, la loi de Dieu. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, la victoire de Christ sur l'asservissement de la loi nous rendait, tu sais, je me lève un matin et je dis, hey, moi, la bonne loi de Dieu, là, je veux l'accomplir. Ben, je vais être un esclave. Parce que ça ne va jamais marcher. Je vais essayer, puis je vais échouer. Puis je vais essayer plus fort, je vais échouer encore plus fort. C'est ça que ça donne, la loi. C'est ça son but, pour nous montrer qu'on est totalement impuissant. Mais Jésus a vaincu, ça fait partie de son triomphe. Et quand on est en lui, on bénéficie de cette libération de la loi. On est dégagé de la loi parce qu'on est mort à cette loi. Mais comme il faut croire qu'on est mort au péché, il faut aussi croire qu'on est mort à la loi. Tout le point de l'illustration de la femme ici, il y a deux maris. Mais dans le fond, le point, c'est qu'il y en a un qui meurt et tout ça, mais ça nous identifie nous autres aussi comme étant morts avec le mari qui nous a dégagés. Donc, on est mort avec Christ, donc on est mort à la loi, on est dégagé de cette obligation légale qui reposait contre nous autres. C'est ça tout le point, on est mort à la loi. Avez-vous déjà pensé à ça? On est mort au péché, mais aussi on est mort à la loi. Attention, ça ne veut pas dire qu'on jette la loi par-dessus bord puis que la loi, elle n'a pas sa raison d'être. On va revenir là-dessus sur le rôle de la loi, mais en tant que chrétien, il faut bien comprendre qu'on est mort à la loi. Et pour vous aider à comprendre, bon, la loi, c'est un régime temporaire qu'on voit ici. Okay? La lettre qui a vieilli. Pourquoi elle était temporaire? Parce qu'elle n'était pas parfaite. Pourquoi? Pas elle-même. Excusez, c'est un régime qui était imparfait. La loi est parfaite, mais comme régime, ça, c'était pas parfait, ça nous amenait tout le temps à couper court, à tomber à court. C'était pour nous mener à celui qui est parfait, à Jésus-Christ. Écoutez là-dessus ce que Hébreux 9 nous dit, à partir du verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là, ça nous réfère à toutes les choses dans l'Ancien Testament avec le tabernacle. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle, celui sur terre, subsistait. C'est un symbole pour le temps présent et il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Il était avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. C'était pas parfait, c'était pas un régime qui était dû pour durer tout le temps. C'était temporaire. Verset 11, « Mais Christ... » Tiens, il y a « Mais Dieu », on va parler de ça avant longtemps, les « Mais Dieu » de la Bible. Puis ici, c'est « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, c'est-à-dire la présence même de Dieu. C'est pas juste des choses terrestres, c'est la réalité des lieux célestes. Donc, le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu, non avec le sang des boucs et des veaux, qu'il fallait toujours refaire, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est ça la différence. Il y en a un qui est temporaire, la loi c'était en attendant, c'était toujours à recommencer, c'était imparfait, dans le sens que comme régime, même si la loi est la révélation du caractère parfait de Dieu, le régime de la loi est imparfait. Pourquoi? Parce qu'il n'apportait pas de rédemption éternelle. Quand ça dit « ayant obtenu une rédemption éternelle », c'est ça qui est parfait. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à enlever. C'est pour ça que le régime temporaire de la loi, de la performance, si vous voulez, est foncièrement déficient. Pourquoi? Parce que ça ne peut jamais nous rendre parfaits sous le rapport de la conscience. Ça nous rappelle tout le temps qu'on tombe à court. C'est ça le but. De nous dire que, oups, on n'a pas atteint. C'est Christ qui a atteint. Nous, on ne sera jamais capable d'atteindre la cible. Seulement Christ l'a fait. Ainsi, la rédemption éternelle que Jésus-Christ a amenée, c'est la fin de toute religion. Comment avoir la rédemption? C'est aussi la fin de toute sanctification par les œuvres, c'est-à-dire comment vivre la rédemption. Et c'est par la foi. La nouvelle alliance, c'est un changement total. Et ça, c'est les implications. On est sous un nouveau régime. Deuxième chose, dans les versets 7 à 13, La loi avait un but temporaire jusqu'à ce que Christ vienne. Que dirons-nous donc, verset 7? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'aurais point connu le péché, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Ce que ça dit, c'est que la loi, c'est comme un bâton que Dieu prend pour me piquer dans le côté puis me montrer ma nature pécheresse. La loi ne crée pas le péché, elle révèle le péché en moi. Puis ça dit à la fin du verset 13, ben on va lire le verset 13, « Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? » Parce qu'on s'entend, le problème, c'est pas avec la loi. Loin de là. Mais le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, c'est-à-dire par la loi, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. On sait que la loi nous a été donnée pour nous conduire à Christ. Ça dit dans Galates 3, 24, « Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Le but de la loi, c'était de nous amener à Christ. Et lorsqu'on a atteint ce but, vous savez, là, ceux ici qui viennent être sauvés, lorsque vous avez trouvé Christ, qui est la fin de la loi pour ceux qui croient, avez-vous arrêté de chercher? Avez-vous arrêté de chercher quand vous avez trouvé Christ?
Oui.
Oui! On a trouvé, on ne cherche plus. C'est pour ça que le monde dit, « Non, mais t'es fermé d'esprit. T'es pas ouvert. » Mais on dit, « Ben, j'ai trouvé. Où j'irai? Christ a les paroles de la vie éternelle. Il est la vie éternelle. J'ai plus besoin de chercher, j'ai trouvé. » Ça, c'est vrai pour le salut. Et le monde, hein, à cause de ça, puisqu'il recherche et il rejette Christ, mais il est en recherche constamment de rédemption, de restauration par les mille et un faux rédempteurs, l'ingéniosité humaine, de la philosophie, les religions, l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Il essaie de trouver la vie parce qu'il n'a pas de vie. Autre chose que Christ. Christ, c'est le deuxième arbre de vie, la croix de laquelle jaillit la vie. Mais les religions, le gnosticisme sous ses différentes formes, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas de rédemption là-dedans, ce n'est que des tromperies. Et Pierre nous parle de ça dans 2 Pierre 2,19. « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » C'est des faux arbres de vie. C'est un mirage qui dit donner la vie, mais le résultat, c'est la mort. Pourquoi? Parce que ça s'appuie fondamentalement sur la loi, sur moi qui veux, je vais faire ceci, je suis la mesure de ce que je veux atteindre. On comprend ça pour le salut, mais écoutez bien. Quand vient la question de la sanctification, tout comme le monde va nous dire... Ah, t'es fermé d'esprit, tu veux plus chercher. Mais souvent, dans les milieux chrétiens, on peut avoir le même genre d'affaires. Où est-ce que, qu'est-ce qu'on dit dans le milieu chrétien? Il faut toujours continuer à chercher la nouvelle formule, le nouveau livre, le prédicateur que lui, il a trouvé la patente. Pourtant, en tant que chrétien, on a trouvé en Jésus-Christ, regardez ce qu'on a trouvé, là, ça nous dit, là. L'ai-tu écrit? Ça dit qu'en lui, on est devenu, je vais vous le lire parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas écrit, mais que nous sommes en lui, 1 Corinthiens, chapitre 1, vous connaissez, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, et rédemption, afin que comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Lorsque le chrétien a trouvé ça, comme sa vie, il ne cherche plus, il a trouvé. Pour ça que Paul dit, j'ai pas eu d'autre idée de prêcher parmi vous que Christ et Christ crucifié. Puis il dit, vous voulez savoir c'est quoi ma vie? Ma vie, c'est Jésus-Christ. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Et c'est vraiment pareil que ce qu'il peut avoir avec le monde. De même que trouver Jésus-Christ comme son sauveur n'est pas compris par le monde. Parce qu'on dit, hey, il m'a donné la vie, c'est 100% satisfaisant, c'est parfait. Mais lorsqu'on trouve Jésus comme notre vie, pas juste comme notre Seigneur et notre Sauveur, mais comme notre vie même, souvent, c'est mal compris. Et c'est triste de voir cette incompréhension de par les chrétiens, et même des fois de l'hostilité. Et j'ai une illustration là-dessus. Vous savez, dans le livre de Esdras, on apprend une situation où est-ce que ça dit, aussitôt que la copie de la lettre, là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est vraiment pour vous illustrer ici, que la lettre du roi Artaxerxès a été lue devant Rehum et ses amis, parce que c'est des noms durs à dire, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs, ils firent cesser les travaux par violence et par force, donc la construction du temple a arrêté, puis l'ouvrage s'est arrêté jusqu'à ce que les prophètes de Dieu parlent. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Salatiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux les prophètes de Dieu qui les assistaient. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Oui, par la violence et la rudesse, les travaux ont été arrêtés. Mais savez-vous quoi, à long terme, le problème? Parce que quand on lit Zacharie, quand on lit Agé, on voit que le problème, c'était plus les ennemis qui les oppressaient, c'était eux-mêmes qui ne voulaient plus. C'est eux-mêmes qui laissaient la vie de Dieu. C'est eux-mêmes qui négligeaient la maison de Dieu. Et ça, c'est une image. Je veux dire, comme chrétien, si c'est plus moi qui vis en moi, si c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le trésor le plus important de vivre dans la foi au Fils de Dieu. Mais on peut négliger ça. Et comme les gens négligeaient la maison de Dieu, nous on peut négliger le temple de Dieu. Pas, oui, ça peut être par une négligence de rien faire, puis la passivité, mais ça peut être aussi la négligence de Christ en faisant tout à sa place, en essayant tellement fort, mais en l'attristant, parce que c'est moi, puis moi sous les différentes formes de tous mes efforts que je peux donner. Et qu'est-ce qui arrive? Je passe à côté de la plus grande vérité de la vie chrétienne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi, je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et mes amis, quand on comprend ça, là, ça change tout dans notre vie. Ça change dans notre relation avec Dieu, de voir qu'on est dans le bien-aimé, que c'est sa vie qui nous anime, qu'on n'a pas à essayer de se forcer nous-mêmes par nos efforts, que le fardeau est sur nos épaules. Non, c'est Christ en nous. Mais ça change aussi nos relations avec les autres. Parce qu'au lieu de voir quelqu'un qui est tout le temps en train d'échouer la loi, je vois quelqu'un qui est un projet en construction de la grâce de Dieu quand c'est un enfant de Dieu, puis quand c'est pas encore un enfant de Dieu, qu'il trouve cette vie qui est en Jésus-Christ. Ça donne de l'espérance au lieu de l'intransigeance. L'espérance qui donne la vie au lieu de l'intransigeance qui donne la mort. Pourquoi se vautrer dans le temporaire destructeur quand on a la vie de Jésus en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire? La réponse, c'est dans le troisième point, au cœur même de l'expérience chrétienne. Parce que ce qu'on voit, ce n'est pas juste des vérités théoriques, des choses à penser dans notre tête. C'est des choses à vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Avez-vous déjà pensé? C'est simple. Comment on fait pour vivre? Comment il vit le juste? Il vit par la foi. Pas par la loi, pas avec toutes ses bonnes intentions, il vit par la foi. Pas par la foi en lui, par la foi en Christ qui vit en lui. Et si ce n'est pas par notre propre humiliation, Romains 7, de voir comment que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Souvent, Dieu nous donne un coup de main, puis il permet des circonstances où est-ce qu'on est humilié, mais ça nous amène à la vraie liberté. C'est le troisième point, le troisième aspect que j'aimerais qu'on regarde. La loi est une lutte temporaire. Donc, la loi, c'est un régime temporaire. La loi est un but temporaire. Mais heureusement, la loi est une lutte temporaire. Et on a déjà lu les versets 14 à 23, mais on voit vraiment qu'est-ce qu'on dit. Je veux ça, mais je ne suis pas capable. Je veux pas ça, mais je le fais pareil. Puis j'ai en dedans de moi les bons désirs. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais il y a une autre loi qui combat dans ma main. Je suis vraiment pogné avec cette lutte. Mais je suis content de vous dire que c'est une lutte temporaire. Dans les versets 7 à 13, c'est la lutte de l'homme naturel, celui qui ne connaît pas le Seigneur, pour voir qu'il ne peut pas gagner son ciel. La loi lui révèle le péché pour qu'il soit condamnable au plus haut point, pour qu'il puisse aller à celui qui est mort pour lui, qui a payé pour qu'il puisse avoir la vie. Les versets 14 à 25, c'est la lutte du chrétien. Puis j'aime pas dire charnel, parce que des fois c'est compris comme un espèce d'état irrévocable et permanent. Ah, lui c'est un chrétien charnel. Ah, elle c'est une chrétienne charnelle. Non, non. C'est un chrétien qui prend les moyens en lui, pas en Christ, mais en lui, pour essayer de vivre la vie chrétienne. C'est un chrétien qui s'appuie sur la chair. Un chrétien qui vit selon la chair. Il est trompé, il est aveuglé par ses propres raisonnements, des faux raisonnements, et ça l'amène dans la servitude. Et je vous dirais, c'est une folie de penser qu'on peut plaire à Dieu par quoi que ce soit qu'on fasse. Car il est impossible de lui être agréable sans la foi. C'est la seule façon de plaire à Dieu, de grandir en lui, de vivre. Le juste, comment il va vivre? Par la foi. Donc, tout le but de l'agonie, là, de ce qu'on sent dans les versets 14 à 23, là, c'est d'arriver au cri du verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera? » Et cette question « qui me délivrera? » Ça l'amène à la belle déclaration de foi. J'appelle ça même au verset 25. « Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il rend gloire à Dieu parce que Christ est la solution. Christ est la fin de cette agonie. Et donc, quand on a trouvé Jésus-Christ, ce qui va me délivrer, on n'a pas besoin de rechercher une formule. Les formules du jeu avec les multiples philosophies et pratiques de la philosophie du faire. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Un chrétien, ça fait ça, ça fait pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est Christ qui vit en nous. Donc, le but de cette lutte qui doit être temporaire, heureusement, si tu es tâche, je suis fatigué, ben, c'est parce que tu es sur le bord d'arriver sur le point de la grâce. Tu es sur le bord d'arriver à dire « La grâce de Dieu me suffit ». C'est temporaire. Le but de cette lutte, c'est de nous mener au repos en Jésus-Christ. N'est-ce pas que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », dans le contexte des gens religieux qui essayaient donc fort de gagner leur ciel. Savez-vous quoi? Il dit ça aussi aux chrétiens, parce que le début de Matthieu 11, ça parle aux non-sauvés, puis après ça aussi, il parle aux sauvés. Il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est dans une confiance humble qu'on trouve ce repos. Vous savez que ça parle du repos dans Josué, ça parle de Josué, mais dans Hébreux 4. Ça dit que si Josué leur avait donné le repos, dans la terre promise, là, ça a été vraiment le repos là, final, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Le vrai repos, c'est en Jésus-Christ. La vraie terre promise, c'est la terre promise des promesses de Dieu en Jésus-Christ, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Parce qu'on a tout ce qui contribue à la vie puis à la piété, au moyen de la connaissance de celui. Le qui, là, ici, c'est celui qui nous a appelés par sa grâce et par sa vertu. Puis on est participants même de la nature divine. C'est ça notre salut, c'est ça la vie chrétienne. Le repos temporaire de Josué était pour mettre en contraste avec celui qui est parfait, l'accomplissement, l'aboutissement du grand Josué, Jésus-Christ, qui donne le vrai repos. Alors, je vous pose la question. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous tanné? Est-ce que vous êtes épuisé de l'inconfort, d'efforts incessants? Puis vous soupirez après le repos de votre cœur devant Dieu. C'est ça l'appel de Romains 7. C'est ça, tout le but du cri de Romains 7, 24. Misérable que je suis, qui? Oh, Jésus, notre Seigneur. Voulez-vous goûter, expérimenter pleinement les bénéfices, la grâce du repos de Dieu face au stress de la vie, aux demandes du quotidien? Ben, la réponse à la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est arrêter de lutter. Arrêtez d'essayer, arrêtez de résoudre, de prendre plus fort les moyens. C'est précisément ça le problème. J'ai dit, Seigneur, mais je t'aime et je veux vraiment donner mon meilleur. Le problème, c'est que ça commence avec « je », votre phrase. Dites, Seigneur, je ne suis plus capable. Je veux voir ce que toi, je veux embarquer dans ce que toi tu fais. Je veux vivre ta vie. C'est ce que tu me dis, Seigneur. Je le crois, c'est plus Christ qui vit. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsqu'on arrive là, waouh, ça donne des ailes. Savez-vous quoi? Le Seigneur, dans sa bonté, fait qu'on est en train de commencer à goûter comme ça, comment le Seigneur est bon. Le Seigneur nous ouvre les yeux tranquillement. Puis savez-vous quoi? On est chacun à des points différents de ce pèlerinage-là, puis c'est bien correct. Faut pas qu'on juge, puis qu'on dise, hey, tout est bien slow, puis ces choses, c'est spirituellement qu'on les discerne. Non, puis au contraire, je vous dis, quand on voit les choses à travers les lunettes de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ça nous donne un amour et une compassion pour ceux qui ne sont pas arrivés ou ce qu'on penserait qu'ils sont... Avec la loi, on dit, hey, t'as pas raison, là. Puis là, on a la condamnation, le ministère de la condamnation, mais la grâce, c'est un ministère de consolation. Amen. La personne peut être libre de dire, oui, j'ai de la misère, oui, je me sens misérable. Puis au lieu d'y pitcher une bible par la tête, on peut avoir les bras ouverts et dire... Welcome to the club, c'est pas la fin de l'histoire. Amen. Hey, amen! C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie d'église. La vie d'église, c'est pas le club des gens parvenus. C'est le club des maganés de la vie. Non, mais c'est vrai! Il y en a qui sont plus maganés que d'autres, puis il y en a qui sont plus équipés que d'autres pour aider les maganés, mais en tout, Dieu a prééminence, c'est lui qui fait son œuvre. Pour que lui seul ait la gloire. Amen. On parlait de ça, un corps, il y a des organes internes, on ne les voit jamais aller, eux autres. Mais je vous jure que quand ils ne sont pas là, on sait que ça ne va pas bien. Il y a des organes internes dans cette église qu'on ne les voit pas. Moi, je suis comme la bouche en avant, puis le fatiguant qui est tout le temps en train de parler. Mais le corps, ce n'est pas juste la bouche, c'est pas juste les oreilles, c'est pas juste les mains. Chacun, pour sa part, membre du corps. Donc, ma prière, c'est que Dieu nous ouvre à tous et de plus en plus les yeux de notre cœur pour qu'on voit les richesses incompréhensibles de Christ ou pour que, comme Paul, on regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde même comme de la boue afin de gagner Christ. Lui, ce qu'il voulait, c'était pas des choses puis des formules, il voulait Christ. Il voulait toujours, de plus en plus, sa vie, qu'on puisse s'approprier ses plus grandes et ses plus merveilleuses promesses. C'est ça les plus grandes et les plus précieuses promesses de la parole. C'est celle en Jésus-Christ qu'on a par notre union avec lui, avec sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Maintenant, écoutez, j'ai presque fini. Tout se joue... Tu sais, on dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Moi, Christ. Tout se joue avec moi qui veux, qui essaye. Pour certains, qui essaient de comprendre. C'est votre tendance forte. Pour d'autres, qui essaient de faire. Pour d'autres encore, qui essayent d'être. Au lieu de faire confiance à celui qui comprend absolument tout, dont le joug n'est pas pénible, il nous donne la force, le mouvement et l'aide. C'est vraiment une question de confiance. Ça part avec moi, Seigneur, je t'aime, je veux, mais le problème, c'est ça, la confiance est en nous. Que Dieu grave sur nos cœurs, que la chair, puis la chair, c'est pas juste quand on est méchant et qu'on crie après quelqu'un, la chair, ça peut être tellement décidé de vouloir plaire au Seigneur. C'est la pire chair dans la vie d'un enfant de Dieu, parce qu'elle essaye fort. Puis elle aime le Seigneur. Mais que le Seigneur nous grave sur nos cœurs que même cette chair-là, elle ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est Christ en nous. Ça m'amène à simplement cet appel ce matin. On parle du moi, on parle de Christ. Peut-être que tu as juste toi, tu n'as pas encore Christ dans ta vie. Invoque celui qui sauve parfaitement ceux qui s'approchent par la foi. Vous êtes peut-être ici pour la première fois. Vous êtes peut-être ici pour la centième fois. Si vous n'êtes pas sauvé, vous avez besoin de venir à celui qui est la vie. Si vous êtes mort, vous avez besoin de naître de nouveau. Vous avez besoin de la vraie vie. Ça commence à l'arbre de vie, la croix du calvaire. Christ mort, lui juste pour nous injustes. Vous ne pouvez pas gagner votre ciel, vous devez recevoir celui qui a payé à votre place. En lui est la vie. Et on a vu ça à la conférence. Là, pour prêcher l'évangile, c'est l'idée de ordonner. C'est pas, ah, oh, c'est toi le temps, tu croiras à l'évangile. Non, non. Dieu donne l'ordre aux gens de croire à Jésus-Christ parce que le roi a tout accompli et il est roi, il règne, il ordonne de se confier en son fils. Et pour vous qui êtes un enfant de Dieu, t'as tellement mieux que ton moi, t'as Jésus-Christ qui vit en toi. Pense à ça. Moi, pour moi, si j'ai trouvé ça libérateur, hein, je me bande donc bien les pieds dans mon moi. Je commence donc bien souvent mes phrases avec « je ». Christ est tellement mieux. Pourquoi essayer de vivre si la Bible nous dit qu'on est mort? On n'a pas osé de mourir à nous-mêmes, on est déjà mort. Il faut laisser celui qui est vivant vivre pleinement en nous. Et savez-vous quoi? C'est là que, lorsque notre confiance est là, c'est là qu'est notre repos, c'est là qu'est notre plus grande joie. Parce que là, on voit, waouh! Tu sais, quand ça dit dans Isaïe, ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur envol comme des aigles, ça nous donne des ailes. C'est vraiment comme, waouh! Seigneur, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est bon, c'est doux, c'est beau. J'en veux encore. Et gloire à Dieu, la source est infinie. C'est une source qui ne peut se tarir. Une source d'eau vive. Donc, je ne sais pas où tu es rendu, mon cher ami, frère, sœur en Jésus-Christ. Je ne sais pas où tu es rendu dans ton pèlerinage. Mais ça, ce n'est pas vraiment grave. L'important, c'est où tu vas avec ça. Peut-être que tu es rendu en plein milieu de la lutte des versets 15 à 23. Ah, oh, j'essaye, puis je veux, puis... Ah, oh, que Dieu puisse t'amener au cri du verset 24. Misérable que je suis, qui? Ou peut-être que tu es juste sur le bord avec ce cri-là d'arriver à la délivrance du verset 25. Grâce soit rendue à Dieu. Oui, il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. Je ne sais pas t'es rendu où, mais la chose est certaine. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on marche par la chair, c'est qu'on marche par l'esprit. Et notre vie, notre confiance à chaque jour, constamment doit se renouveler dans cette réalité suprême. On doit se prêcher à tous les jours, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. La déclaration d'émancipation. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, là, cette journée que le Seigneur m'a donnée, ce n'est pas moi qui vais essayer. C'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Puis là, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour lui-même pour moi. Je ne sais pas comment faire, j'ai dit ce verset-là. Je pense que c'est important pour la vie chrétienne. Avant de prier, je termine avec Lamentation. Et verset, chapitre 3, verset 21 à 22. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. On te remercie, Seigneur, tu es fidèle. Et Seigneur, tu es près de tous ceux qui t'invoquent. Tu es la vie débordante. Tu coules à flot pour donner la vie à tout le monde qui s'approche de toi. Un regard vers la croix et on passe de la mort à la vie. Que si quelqu'un ici n'est pas encore né de nouveau, qu'aujourd'hui soit le glorieux jour de sa nouvelle naissance. On te prie, Seigneur, on veut voir ce miracle de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et pour nous, Seigneur, tes enfants, on est dans le miracle de la vraie vie. C'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Et Seigneur, oh, ouvre nos yeux, ouvre notre cœur. Fais-nous faire le déclic. Ou pour certains, amène-nous au prochain pas, Seigneur, pour qu'on apprenne de toi la vraie vie, de la foi. Merci Seigneur, tu es fidèle, tu es bon, tu es merveilleux. On te bénit, on te loue au nom de Jésus. Amen. Amen.